L'autorisation à madame, pas demander à monsieur.
Non, il est d'accord.
Il est d'accord, dit-elle. C'est bon?
D'habitude, je parle plus que lui, mais aujourd'hui, je vais lui laisser la primeur. J'ai eu l'occasion pour ma part de venir vous rendre visite. C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans que j'avais témoigné courtement. Puisque, bon, il n'y a pas de hasard, hein, mais c'est par hasard que j'ai trouvé votre église en allant boire un café. Pendant que je buvais mon café et que je lisais la Bible chez une amie qui habite à Cléguer. Maud et Marie qui viennent ici de temps en temps vous rendre visite et merci pour l'accueil que vous leur faites. Parce que leur vie est en cheminement, mais il faut aussi accepter de les recevoir telles qu'elles sont. Et votre amour est un vrai témoignage pour elles, comme de les recevoir comme elles sont. Pour notre témoignage personnel, j'aimerais surtout témoigner sur la manière dont Dieu peut nous relever. Donc, nous sommes parents de 5 enfants. Et il y a 5 ans, bientôt 5 ans, on a perdu notre deuxième fille, Sinaï, qui avait 11 ans. Elle est décédée des suites d'un cancer. Et s'il y a une chose que j'ai à cœur de vous dire ce matin, c'est que parfois on se sent trop, trop faible pour pouvoir servir ou faire quoi que ce soit. Et effectivement, là, vous nous voyez 5 ans après, on n'était pas dans le même état il y a 5 ans. Mais dans notre faiblesse, Dieu peut se servir de notre faiblesse. C'est-à-dire que je sais que j'ai tendance à dire que Dieu a toujours été à mes côtés. Effectivement, parfois j'ai lâché sa main, par contre, lui n'a jamais lâché la mienne. Et c'est ce qui nous a aidés aussi à nous reconstruire petit à petit dans notre relation avec lui. On sait que jamais il ne nous a abandonnés. Et souvent, on se dit, oui, mais bah moi, là, c'est tellement difficile. Oui, nous, on peut lâcher sa main, mais lui ne lâche jamais la nôtre. Et quand j'ai terminé, et je pense que cette phrase, je vous l'ai dit, mais c'est une phrase que je dis et je redis, et Willy a dû l'entendre 100 fois. J'ai repris des études il y a 3 ans, un DU en soins palliatifs, parce que je vais vous parler rapidement de l'association dans laquelle je suis actuellement. Quand j'ai repris mon DU en soins palliatifs, je tenais à pouvoir témoigner de ma foi, même rapidement. Et dans les remerciements, j'ai écrit une seule phrase. Et c'est: Je remercie Jésus, ma source d'espérance et de consolation. Il n'a pas promis que je ne traverserai pas d'épreuves, mais il a promis qu'il les traverserait avec moi. Et ça fait aussi la transition par rapport à cette association qui nous a accompagnés quand Sinaï était en soins palliatifs, qui s'appelle Le Point Rose. C'est une association complètement laïque. Mais là aussi, sans parler de notre foi, on peut être un témoignage. C'est-à-dire que, et là, mon mari pourra hocher de la tête pour dire que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup témoigner aussi de ma foi. Par contre, dans cette association, le Seigneur m'a aussi appris à être sage et à être un témoignage sans obligatoirement parler de ma foi, parce que de toute façon, ça aurait été un blocage. Alors, ils ont toujours accepté, en tant que parents, d'accompagner ceux qui nous aidaient. Mais il m'a fallu presque 3 ans et demi de sagesse avant de pouvoir mettre cette foi en avant. Et là, je suis en train de terminer un DU d'aumônier, où je vais avoir la place officielle d'aumônier dans l'association. Mais cette place d'aumônier, où je vais pouvoir, du coup, ouvertement parler de ma foi, elle a pu se faire parce que j'ai eu la sagesse de ne pas mettre tout le temps ma foi. Ma foi, je la vis. Et elle est tout aussi présente, même si j'en parle pas ouvertement. Et parfois, on se dit, bah, il faut absolument parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu. Mais en fait, notre vie est un plus grand témoignage que nos paroles. Et voilà, j'aimerais terminer sur ce court témoignage et laisser la place à mon mari. Je ne sais pas du tout de quoi il va parler, mais généralement, il y a toujours un mot sur moi dedans.
Bonjour à tous, salutations de l'église d'Istres. Vous avez les salutations de Patrice et Leïla que vous avez peut-être rencontrées pour certains d'entre vous. Ils vont bien et ils vous saluent. Alors, il y a 2 jours, j'ai appris que je devais partager des petites choses avec vous. Et jusqu'à hier soir, je ne savais absolument pas. Et puis, je me suis couché en ne sachant pas du tout ce que j'allais vous partager ce matin. Alors, je vous rassure, Jean-Marc prendra au moins 50 minutes pour prêcher. Je prendrai moins de temps aussi, j'en prendrai que 45 à peu près. Donc ça va. Je serai un peu moins bavard. Ce matin, en me réveillant tôt, un peu plus tôt, je réfléchissais à ce que j'allais vous dire et j'ai un verset qui est venu tout de suite, très rapidement, dans ma petite tête. C'est un verset d'Apocalypse, chapitre 1 et verset 12, et puis le verset 20 aussi. « Je vis sept lampes, sept chandeliers, qui sont les sept églises. » Et je ne sais pas si cette semaine vous avez vu qu'on a ravivé la flamme olympique. Hein, on a parlé de ravivage. Je ne savais même pas que ça existait, ce mot « ravivage ». C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Et ça m'a fait penser à cette flamme que chaque église dans l'Apocalypse est, ce porte-lampe même. Certaines versions disent d'un porte-lampe. Et nous ne sommes que le porte-lampe. Nous ne sommes pas la lumière. Jésus est la lumière. Et je crois que chaque église... nous représentons un chandelier avec une lumière à porter et vous êtes une lumière. L'église d'Istre en est une. Nous portons une lumière qui est Jésus et nous la portons, j'ai dire, avec les dons et les cadeaux que Dieu nous a donnés de façon différente, mais toutes mises ensemble, eh bien, ces choses-là forment le corps de Christ. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ce matin, je me suis senti comme à la maison. Avec des chants qui m'ont rappelé ma jeunesse, ça m'a fait du bien.
Oui, honnêtement, oui, oui, oui.
Parce que quand j'ai découvert Dieu à l'âge de 13 ans, baptisé à 15 ans, on chantait certains de ces chants-là. Et puis des fois, on les oublie un peu. Et puis des fois, les ressortir, ça fait du bien. Et ça prouve que nous ne formons qu'un, parce que l'Esprit de Dieu nous unit. Et... des fois, on cherche des nouveaux chants pour des nouveaux chants. Ça ne sert pas à grand-chose, j'allais dire, parfois. Mais c'est bien d'en apprendre des nouveaux également. Mais je me suis senti comme à la maison, parce que vous avez, à votre façon, porté la flamme de Jésus. Vous êtes des chandeliers. Et vous, peut-être parfois, Aurore en a parlé, dans nos vies, les flammes vacillent. Elles peuvent peut-être même être sur le point de s'éteindre. Nous, il y a 5 ans en arrière, j'allais dire, notre flamme, elle était presque éteinte quand notre fille est décédée. Ça a été compliqué. Il y a des circonstances dans la vie, des fois, qui font que notre flamme ne brille pas autant qu'elle devrait briller, parce qu'on peut passer par des moments compliqués, des épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit, peu importe finalement, des mauvaises décisions qu'on peut prendre. Et la flamme peut vaciller et elle peut être même sur le point de s'éteindre. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus est celui qui n'éteindra jamais ton lumignon. Quelles que soient les circonstances qu'on peut passer dans nos vies, Jésus ne l'éteindra pas parce que ce qu'il a mis en toi, personne ne pourra le prendre. L'onction qu'il y a sur ta vie, quels que soient les moments que tu traverses, personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé. Peut-être la seule personne qui peut l'éteindre, c'est toi-même. Mais rien ne pourra prévaloir contre toi, malgré les circonstances de la vie qu'on peut traverser. Et effectivement, nous avons traversé cette épreuve-là. Vous en avez peut-être traversé d'autres. Peu importe, Jésus reste le même. Et il ne veut pas que ce petit lumignon s'éteigne, bien au contraire. Il ravive la flamme. Et quelles que soient les promesses de Dieu qu'on peut recevoir dans nos vies, qui peuvent des fois dater d'il y a très 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 longtemps, Dieu ne les oublie pas, les promesses qu'il a faites sur nos vies. Peut-être que tu as reçu un appel particulier, un don particulier, Dieu ne l'oublie pas. Et il veut nous faire tous et toutes rentrer, j'allais dire, dans une nouvelle dimension, raviver cette flamme aussi qu'on a peut-être essayé de cacher, qu'on a peut-être mis sous la table au lieu de la faire briller en haut d'une montagne. Jésus sait ce qu'il fait avec nous. Et comme Aurore l'a dit, il n'a jamais promis que tout irait bien. Ceux qui vous ont promis ça un jour, sont des menteurs, j'allais dire. Ceux qui vous ont vendu un évangile où tout est rose, tout est parfait, où jamais rien de mal nous arrive, où vous aurez un évangile où vous auriez des millions sur votre compte en banque, une assurance tout risque, tout ça, ça n'existe pas avec mon Jésus que je connais moi personnellement. Mais il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas forcément un témoignage que je voudrais vous partager ce matin. C'est plus une exhortation. Quels que soient les moments de la vie que l'on traverse, Dieu reste Dieu. Quelles que soient les épreuves, le vent, les tempêtes qui soufflent, Dieu reste Dieu. Et les promesses qu'il nous a données, que ce soit à Aurore ou à moi, Dieu est en train d'en raviver quelques-unes dernièrement dans ma vie. Je vais vous en partager deux. Il y en a une qui l'a ravivée il y a quelques années et j'en discutais avec Francine hier soir. Quand j'étais à l'école biblique, une prophétesse d'Afrique du Sud m'a dit « Le Seigneur te donnera autour de toi beaucoup, beaucoup d'enfants. Je te vois avec énormément d'enfants autour de toi. » Oui, effectivement, on en a eu 5. C'est déjà beaucoup d'enfants en soi, mais c'était beaucoup plus que ça encore. Je ne comprenais absolument pas du tout ce qu'elle voulait dire par ça. Et puis, plus de 20 ans après, cette promesse est devenue réalité, puisque j'ai repris des études aussi et je suis devenu enseignant, professeur des écoles. Et dans ma tête, cette petite lumière s'est allumée. On dit, mais je te l'avais bien dit que tu serais avec plein d'enfants autour de toi. Dieu sait ce qu'il fait au moment où il veut. Hein, peut-être nous, ça nous semble long parfois à venir, l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais le Seigneur est fidèle et si nous, ça nous semble long, pour lui, quelques années, ce n'est rien par rapport à l'éternité qui le caractérise. Et puis, dernièrement, une autre flamme s'est ravivée. Celle-là, j'ai bien essayé de l'étouffer hein, pendant bien longtemps. Elle est encore plus vieille, cette promesse d'un appel pastoral. Et je peux vous dire que je l'ai bien enterrée, celle-ci. Et le Seigneur est revenu à la charge encore et encore et encore, jusqu'à dernièrement où quelqu'un qui ne me connaît pas a eu une parole prophétique pour moi. Il l'a transmise à quelqu'un qui allait venir me voir, mais c'était incroyable encore une fois. Dieu sait ce qu'il fait. En son temps, ce qu'il fait est parfait. Et quel que soit, eh bien vous, en tant qu'Église, j'allais dire, le flambeau que vous portez, ne le laissez pas s'éteindre, mais bien au contraire, continuez de raviver la flamme. Continuez de briller aux yeux des hommes, parce que vous pouvez faire la différence là où vous êtes. Continuez là où tu es, toi, personnellement, de faire briller ta flamme avec les dons que Dieu a mis sur ton cœur, dans ta vie, parce que tu peux faire la différence là où tu es. Et ça, c'est extraordinaire, parce que Dieu ne va pas te lâcher. Tu es trop précieux pour que Dieu te lâche. Et Dieu veut faire des belles choses avec toi aujourd'hui. Et j'aimerais vous lire encore un passage dans l'Apocalypse qui me fait penser à vous. Que je le retrouve rapidement. Et ça me fait penser à Francine et à Jean-Marc particulièrement. Apocalypse chapitre 3 et verset 8, on nous parle de l'église de Philadelphie. C'est un peu l'église qu'on aimerait tous être, celle-là. Hein ? Il y en a d'autres qui nous plaisent moins, mais celle-là, on l'aime bien. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais qui ne le sont pas et qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, cette flamme, retiens-la, et que personne ne prenne ta couronne. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné, de le retenir et de continuer à le faire briller, quelles que soient les circonstances de nos vies, parce que Dieu est fidèle et que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Soyez bénis.
Si ça ne te dérange pas qu'on enregistre, comme ça, c'est pour toi.
Donc moi, je m'appelle Eden, j'ai 17 ans, je suis coiffeuse. Et il faut savoir que notre assemblée, elle a les cultes le samedi, parce qu'on n'a plus de local, on le partage avec une autre église qui, eux, font les cultes le dimanche. Et du coup, le gros problème, c'est que moi, je travaille le samedi. Et donc, il y a eu dans ma vie avec Dieu, la fois où j'ai vraiment fait mon cheminement avec lui, c'est après la perte de ma sœur. Et ce qui s'est passé, c'est que après, je me suis orientée vers un CAP coiffure, où j'ai trouvé ce qui me plaisait, et j'aimais le contact avec les gens. Et en fait, c'est là que j'ai compris que la vie de l'Église, elle ne se résume pas qu'à un bâtiment, elle ne se résume pas qu'au rassemblement le dimanche avec, avec notre Église ou les réunions de prière et tout. Mais ça fait partie aussi de mon don à avoir la facilité de parler avec les gens en dehors. Et donc, à Ménière, ce qui s'est passé, c'est que ce week-end-là, ça tombait l'anniversaire de ma sœur. Donc ça a été un peu compliqué. Je me disais que ça allait aller de toute façon et que dans tous les cas, ça ne pouvait pas me faire de mal. Et le jour même, j'ai ressenti un énorme poids sur moi. De tout ce que je n'ai pas pu... de choses que je n'arrivais pas à mettre de mots. Et pendant tout le week-end, le trajet, j'ai eu la nausée. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est mon moment de l'année où je viens et là, je me sens pas bien tout le week-end. Et ça commence à aller mieux. Il y a le temps de louange, le premier temps de louange de tout le week-end. Et là, Nick qui commence à parler. Mes démos sur toute ma situation en fait actuelle. Il demande à s'avancer pour ceux qui ont besoin de prière. Moi, je m'avance forcément. Et là, en fait, je commence à m'écrouler par terre, à pleurer. Et Nico et Nick viennent vers moi pour prier. Et Nico a eu une parole pour moi, quelque chose qui lui tenait à cœur, qui m'a dit. Il m'a dit que Dieu m'avait pardonné depuis bien longtemps et je le savais. Mais il a dit qu'il allait falloir que je réussisse à me pardonner à moi-même aussi. Parce que j'avais beaucoup de regrets sur choses que j'ai pu faire ou ne pas faire avec ma sœur. Et donc juste après ça, je me suis sentie enlevée d'un poids incroyable. Où j'arrive même pas à mettre deux mots dessus tellement que c'était fort. Et puis après ça, j'ai eu l'opportunité de prier pour plusieurs personnes pendant tout le week-end. Et après avoir été renouvelée, après avoir reçu plein de choses de Dieu, du coup, j'ai pu en donner aux autres. Et toutes les personnes que je ne connaissais pas d'ailleurs, ou que je suis allée les voir, et je dis, toi, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Dieu vraiment m'a affiché dans ma tête... Il m'a permis de pointer le problème sur quelqu'un qui n'arrivait pas à mettre des mots. Il y en a une, elle avait des idées noires. Elle avait envie de s'enlever la vie tellement qu'elle n'allait pas bien. Et elle a été délivrée de tout ça. Une autre fille qui a perdu un très bon ami dans un accident de voiture. Une autre qui a perdu son ex-copain qui s'est suicidé. Et franchement, pendant tout ce week-end, par le biais de personnes, Dieu m'a permis vraiment d'avoir plein de révélations, d'encouragement. Et j'aimerais vraiment vous encourager, vraiment, parce que par votre vécu, que ce soit à l'église, votre vécu personnel, votre relation avec Dieu, qu'importe ta provenance, qu'importe tes origines, qu'importe les erreurs que tu as pu faire, tu peux être une bénédiction pour beaucoup. Que ce soit à ton travail, à l'école, dans ta famille en premier. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse parce que je suis très contente d'être là. Et d'habitude, je ne peux pas aller à l'église et ça me fait beaucoup de bien d'être ici.
Amen. 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 Merci, Eden. Je me dis, quelle famille. Waouh. Quelle famille. On prie pour Istres depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le mercredi soir, on a deux assemblées. J'ai envie de dire qu'ils sont des assemblées sœurs. Nous ne nous dispersons pas, mais le Seigneur conduit les choses. Et il se trouve que l'assemblée de Istres, on a eu des liens d'abord avec le stage de pratique pastorale où nous avons accueilli Patrice et Laïla dans des conditions particulières qui ont fait que ça a été une semaine exceptionnelle pour eux, je pense, mais pour nous aussi. Et ça a créé un lien très particulier et une responsabilité pour nous de prier, d'intercéder pour cette Église. Willy, Aurore font partie de l'équipe pastorale, comme Patrice et Leïla, et David et Christelle Renard. Et je vous invite vraiment à prier pour cette assemblée qui, comme toutes les églises, dès lors qu'elle est vivante, l'adversaire, ça le dérange. Donc, les églises qui ronronnent, qui ne mettent pas en péril le travail de l'adversaire, elles sont tranquilles. Vraiment. Et c'est ça qui devrait les alerter. Mais les églises où les hommes et les femmes sont... Et j'entends une jeune fille, une jeune femme de 17 ans nous exhorter. Hein, c'est quelque chose quand même. Hein. Donc, cette église-là, elle est vivante et elle a forcément aussi des moments difficiles à traverser, de l'opposition. Donc prions pour Istres comme nous continuons à prier pour l'église de Paris avec Anne-Marie et Gilles Delogère. Merci à vous pour votre témoignage. Alors, une méditation de quelques minutes, mais que j'ai eu peur parce que je me suis dit, Ivan est en train de me chipper mes points thèmes. Donc je me dis, bon, vivement qu'il se forme pour pouvoir apporter la parole du Seigneur aussi le dimanche matin. Hein. Et Eden aussi. Hein. Il y a certainement du travail à faire aussi, un appel dans lequel il s'agit d'entrer les uns et les autres, et les plus jeunes aussi. Sait-on jamais, hein, que le Seigneur puisse emporter, emmener, conduire les plus jeunes. Alors moi, j'écoutais entre autres Ivan, et puis je me suis dit, tiens, il est en train de me prendre une thématique. J'avais cette pensée-là. Il y a 7 ans, à peu près, j'écoutais la radio et j'étais sur France Culture. C'est pas forcément là, je vais pas me gausser d'écouter France Culture, c'est pas ma station de radio préférée. Mais il se trouve que je l'écoutais et il y a une citation qui m'est tombée dans l'oreille, qui ne m'a plus quitté. C'est une citation de Claude Lévi-Strauss qui disait ceci, enfin il ne le disait pas parce qu'il est décédé en 2009, mais il y a 7 ans, une de ses paroles est remontée, a été diffusée. C'est Claude Lévi-Strauss, un très très grand anthropologue et ethnologue français qui a vraiment eu une influence majeure à l'échelle internationale sur les sciences humaines et sociales dans le monde du 20e siècle. Et il disait ceci, une société se construit sur 3 sentiments. Les espérances, tu en as parlé en citant Romains 15, les espérances, les peurs et les tentations. Je répète, une société se construit sur 3 sentiments, les espérances, les peurs et les tentations. Et c'est une phrase qui me restait en mémoire. Je me dis, mais si un homme aussi profond dans sa connaissance de la société, des sciences humaines et sociales, dit cela, si une société se construit effectivement sur principalement ces 3 données, les espérances, les peurs et les tentations, en est-il de même aussi dans l'écriture, parce que j'aime bien, Evan parlait de l'Église qui est appelée aussi à s'engager et à donner du pain à ceux qui n'en ont pas. Et dans les sciences sociales, ce qui est intéressant, c'est quand des approches en sciences sociales, j'évoque cela aussi pour Aurore qui est en train de faire sa formation d'aumônier, quand les sciences sociales sont justes et droites, on retrouve ces éléments-là dans l'écriture, parce que ce qui est juste et droit est dans la parole de Dieu. Et il y a des approches en sciences sociales que j'ai totalement, je dirais, investi, et le psychologue que sera Ivan le fera certainement aussi. Ces sciences-là peuvent nous intéresser parce qu'on trouve la manière de penser, d'être et d'agir dans l'Écriture. Alors je me suis dit, tiens, si les trois sentiments que sont les espérances, les peurs et les tentations fondent les sociétés modernes, selon Claude Lévi-Strauss, est-ce que dans l'Écriture, on trouve cela? Et je me suis arrêté sur un des trois thèmes. Un jour, je traiterai peut-être des espérances et des peurs, mais je me suis arrêté sur la question des tentations. Est-ce que les tentations sont un des fondements de nos sociétés? Et dans l'Écriture, qu'est-ce qu'il en est dit? Alors, si cette pensée fait écho, c'est certainement parce que ces trois notions sont indissociables du plan de salut de Dieu. Le plan de salut de Dieu prend en compte la question des espérances, des peurs et des tentations. Et c'est ce que disait aussi Ivan en parlant des tentations qui sont aussi les choses qui viennent dans notre vie pour nous faire faire des choix. Et vous revenez du camp de multitude, mais je parle aux chrétiens que nous sommes. Nous avons fait des démarches avec Dieu, nous nous sommes engagés, nous avons vécu des expériences. J'ai entendu le témoignage de Willy et d'Aurore, des expériences parfois très bouleversantes. Une fois qu'on a fait ça, est-ce que tout est acquis? Est-ce que nous restons sur ce terrain-là et on n'attend plus que l'enlèvement pour ceux qui ont de la chance, ou la mort pour ceux qui n'en ont pas? Mais non. Je dirais, après, arrivent aussi des moments difficiles et des choix à faire. Alors, des notions, des sentiments qui sont à la base de l'élaboration de tout projet de société. Alors, quelle vision nous propose la parole de Dieu sur la manière de construire nos vies personnelles ou de bâtir l'Église? Parce que c'est bien ça. Nos vies personnelles, est-ce qu'elles sont tributaires de ces trois données, les espérances, les peurs, les tentations? Et quand j'abordais la question des tentations, je me suis dit, mais il y a un texte incontournable sur la question des tentations et qui est, je pense, ce qu'on appelle un texte fondateur dans l'Écriture pour nous en tant qu'hommes et femmes, mais aussi pour l'Église, pour les organisations qui veulent porter un projet. Et ce texte, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où il y a Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, qui revient du Jourdain et qui est conduit par l'Esprit dans le désert. Eh oui. Alors là, il est tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit et dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit-Saint, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. La tentation. C'est ma formule habituelle. Que ceux qui n'ont jamais été tentés puissent quitter la salle maintenant et que les autres restent. Il y a Eden qui a failli se lever. Provocatrice, va. La tentation, en fait, c'est le quotidien du croyant, ou en tout cas sa manière de faire des choix. Et on pourrait dire que la tension de vouloir ou croire que nous pouvons tout maîtriser dans notre existence, en somme, ça serait exprimer notre désir de toute puissance, de nous croire l'égal de Dieu. Or, c'est bien là l'origine du péché originel. Il sait que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux. Et vouloir être des dieux, c'est véritablement ce que tous les hommes et les femmes de ce temps espère ou une manière de vivre. Vivre sans Dieu avec la certitude d'être capable de décider de tout, librement, sans se soumettre à l'autorité divine. Ça, c'est le péché. La tentation de s'affranchir de Dieu. Je n'ai pas besoin. Et en fait, notre présence en tant que chrétien dans cette société, c'est une présence qui vient s'opposer à cette pensée-là. Mais dans notre vie personnelle, il y a des moments où nous avons la tentation de vouloir nous affranchir de cela aussi. Alors, ce qu'on traduit dans la Bible par tentation, c'est une expérience qui met à l'épreuve parce qu'elle ouvre deux voies. C'est ce qu'a dit, qu'a commencé à prêcher Ivan. C'est-à-dire qu'on a deux voies, une voie vers Dieu et une voie qui nous en sépare. C'est le jardin d'Éden. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Hein ? Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Et puis j'aime bien ce verset-là, c'est « Choisis la vie », comme si j'avais le choix. Mais si, j'ai le choix, y compris d'aller vers la mort. La tentation, c'est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien ou le mal, Dieu ou lui, c'est-à-dire la mort. C'est une incitation au péché à suivre Satan plutôt que Dieu. La tentation de Christ, à ce moment-là, de son expérience et de son parcours de vie, c'est est-ce que tu veux continuer ton chemin avec Dieu, avec ton Père, ou est-ce que tu veux recevoir ce que je peux te donner ? Alors, une partie de l'expérience de cette vie consiste à apprendre à résister à la tentation et à choisir le bien plutôt que mal. Résister. Des fois, ce n'est pas facile de résister. Alors, je dis que ce texte est un texte fondateur. Et il y a des pères de l'Église, de Justin à Origène, qui ont commenté à l'envi le parallèle entre Adam au jardin d'Éden et Jésus au désert. Et si nous lisons ce passage de l'évangile de Luc, donc, pour en avoir le sens, il faut lire avant. Eh oui. Oh, dis donc. Il faut lire avant pour comprendre, mais est-ce qu'il y a un éclairage à retirer pour comprendre cette question des tentations ? Alors oui, il y a dans les textes qui précèdent des passages juste avant qui disent, qui donnent un éclairage. Quel est l'enjeu de cette tentation ? Ben, l'enjeu, c'est si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, dit le diable, Satan, à Jésus. Si. Toute la question est de savoir si tu es le fils de Dieu et si tu le maintiens. Juste avant, vous avez une généalogie, chapitre 3, très étonnante, pas au début de l'évangile, un petit peu après, juste avant cette tentation, où vous avez la généalogie de Jésus, Jésus jusqu'à Adam en quelques versets. Et cette généalogie se termine par cette phrase au chapitre 3, verset 38, « Et Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu ». Quelle juxtaposition étrange ! C'est-à-dire qu'au lieu de dire « fils de, fils de, fils de, fils d'Adam », il dit « fils d'Adam, fils de Dieu ». On se dit, il y a là une pensée déterminée par l'évangéliste de dire « l'enjeu qui va se passer juste après, c'est de savoir est-ce qu'il est fils de Dieu. » Et c'est la question où, j'irai, l'argument que pose Satan à Jésus. Si tu es fils de Dieu, une forme de provocation, de détournement, de dire, si tu as vraiment cette filiation-là, alors tu feras ça. Alors tu feras ça. Ou tu agiras comme cela. Et juste avant, qu'est-ce qu'il y a avant cette généalogie dans l'évangile de Luc? Vous vous souvenez un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a? Le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit dans cet événement? Que lorsqu'il a été baptisé, une voix est descendue du ciel et a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire mon fils dans lequel j'ai mon plaisir ». Il y a cette voix qui descend du ciel. Ensuite, il y a la généalogie qui dit, eh bien, de Jésus, on redescend jusqu'à Adam, celui qui a introduit quelque part le péché dans le monde, dans l'humanité. Et en même temps, il est fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a cette double identité. La question qui se pose aujourd'hui pour moi et pour vous, c'est est-ce que vous êtes fils d'eux et fils de Dieu? Et si vous êtes fils de Dieu, comment allez-vous vous positionner face aux tentations pour affirmer votre filiation de manière claire face à l'adversaire? Si tu es fils de Dieu, tu peux faire ceci. Si tu es fils de Dieu, tu peux agir de telle manière, penser de telle manière, avoir cette manière d'être, si tu es fils de Dieu. Tu es fils d'Adam ou tu es fils de Dieu? Et en fait, ce texte-là nous renvoie à cette nécessité d'affirmer dans les tentations et face aux tentations le fait que notre identité est une identité de fils de Dieu. Alors, certains qui me connaissent, qui m'écoutent de temps en temps, se disent « mais il est obsédé par la Genèse hein, ». Mettre en lien le récit de la chute avec les tentations de Jésus, c'est quand même exagéré. Mais est-ce que ce n'est pas tout le sens de la relation entre Dieu et l'homme? Lui laisser toujours le choix d'être un avec Dieu ou d'être un sans Dieu dans son parcours de vie, dans sa découverte de la liberté. En fait, la tentation de Christ, c'est l'expression de l'humanité de Christ qui a le droit de se déterminer et d'être libre. Et je suis libre. Et les jeunes qui ont quitté Multitude il y a quelques semaines, ils vont avoir le droit de faire jouer leur liberté et d'être avec ou sans Dieu dans tous les domaines de leur vie et dans toutes les propositions qui seront faites par l'adversaire sur leur chemin. Qui restera avec lui? Qui marchera pour moi, dit Dieu à Isaïe? Est-ce que cet appel-là retentissant dans nos vies? Et là, je parle aussi bien aux jeunes qu'aux cheveux blancs. Est-ce que... Il y a un fils qui vient regarder la tête de son père. Ah oui, ça le concerne. C'est génial, ça, la réaction. Comment? Exactement, exactement, c'est mon cas. Voilà, est-ce que je suis celui qui pourra dire « je marcherai pour toi » quelles que soient les tentations qui se proposent à moi? Alors, dans ce texte de la tentation de Jésus, est-ce que vous remarquez le schéma? C'est on commence par le baptême. Une voix descend du ciel et dit « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Waouh! Comme dirait Willy, un chemin de rose se prépare, avec des pétales, de la facilité, des choses aisées. C'est ça. Non, c'est tout le contraire. Il disait être, s'engager pour Christ, prendre. Et le baptême, c'est l'expression d'une conscience qui s'engage pour Christ. Est-ce que ce début de marche dit que, ben là, maintenant, tout roule? Non, loin de là. C'est là que l'adversaire commence à intervenir. Mais pas seulement. Parce que si vous regardez attentivement, il est dit que c'est l'Esprit Saint. Alors que Jésus est rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Sympa le Saint-Esprit. Je viens juste de prendre mon baptême, je rentre dans mon service et il m'emmène dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, là le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Il revient du Jourdain. Là aussi il y a une symbolique forte. Franchir le Jourdain, c'est rentrer dans la terre promise. Combien sont rentrés dans leur terre promise, dans l'appel que Dieu avait pour eux, dans une vie de consécration? Et qu'en est-il ensuite? Quand la tentation survient, les difficultés, les moments sombres, est-ce que je reste toujours fidèle à mon appel ou bien est-ce que je choisis quelques chemins de traverse qui me paraissent plus faciles et confortables? Revenant du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit Saint, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Les 40 jours de tentation de Christ, on ne peut pas ignorer que franchissant le Jourdain, on fasse un parallèle avec le parcours d'Israël. Ils ont franchi le Jourdain, où ils se sont positionnés devant le Jourdain, ils n'ont pas voulu rentrer dans la terre promise, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Jésus a accepté la tentation d'être mis à part pendant 40 jours et confronté à l'adversaire. La première tentation, c'est le diable qui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » C'est la tentation liée au manque. Est-ce qu'on aime le manque ? Est-ce que, quand on dit « Oui, je te suivrai, Seigneur », mais qu'on est confronté à des manques qui nous semblent essentiels ? Ici, c'est le manque de nourriture. Le pain nous rappelle le besoin élémentaire de manger qui nous renvoie à notre fragilité, à notre finitude. C'est-à-dire, si je ne mange pas, bon, déjà, moi, j'ai... Le délai où je ne mange pas est assez court, en général. Donc, quand je ne mange pas, je le prépare. Il y a des fois, ma femme n'a pas le même délai que moi par rapport au sentiment de faim. Donc, il y a des fois, je monte de mon bureau, je dis « on ne mange pas ?» Puis elle dit « ah bon, déjà ?» On n'est pas calé sur les mêmes horaires. Mais ne pas manger... Ça nous renvoie à ce besoin essentiel de se nourrir et de vivre. Alors, ça renvoie aussi à autre chose, le pain. Le pain, c'est du blé qui a été cultivé, qui a été ramassé, qui a été broyé, qui a été transformé, qui a été cuit, qui a été distribué. En bref, c'est un pain, c'est quelque chose qui est devenu un matériau social. Il y a plein de personnes qui ont rendu... possible qu'il y ait du pain sur la table. Alors, on n'a pas la Sainte-Seine aujourd'hui ou la Seine, mais le pain, c'est un élément social où plein de personnes se sont mises ensemble. Ah, ça veut dire que ce n'est pas une question de blé, mais bien de quelque chose qui a été transformé par une société et qui me le met à disposition. Ça veut dire que le pain, c'est quelque chose qui fait référence à la société des hommes et quelque part, de la même manière que le pain proposé à la Seine, c'est un pain qu'on ne prend pas tout seul dans son coin, mais qu'on va prendre ensemble et qui parle du collectif, de l'Église, du peuple de Dieu. D'ailleurs, rappelez-vous, quand il va 40 jours dans le désert, ça fait référence aux 40 ans dans le désert, et là, tous les jours... Il y avait du pain qui descendait du ciel et qui nourrissait tout le monde en même temps. Et chacun prenait du pain et pouvait manger ensemble en même temps. Il y a un seul pain qui nourrit la multitude. Il y a un seul pain descendu du ciel qui est venu nous donner la vie. Alors, vivre, c'est pas seulement manger, c'est manger avec d'autres. C'est célébrer la joie d'être ensemble dans un constant renouvellement. On peut penser aux deux disciples d'Emmaüs qui reconnaissent Jésus au moment de la fraction du pain. Est-ce que, je dirais, la réponse de Christ, « L'homme ne vivra pas de pain seulement », ne vient-elle pas, cette réponse, nous dire « c'est pas seulement une question de pain, de quelque chose à manger qui est évoqué là, c'est le sens et le symbole et l'acte de manger quelque chose que nous partageons ensemble ». La deuxième tentation, c'est Jésus qui dit devant le diable, « Je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » En fait, la deuxième tentation, c'est une tentation qui est liée au culte exclusif qui nous est demandé. Satan est là, il prend de la hauteur au-dessus de la terre. Alors la terre, c'est oïkouméné, hein, œcuménique, oïkouméné, c'est la terre habitée. En fait, c'est une tentation par rapport aux sociétés humaines. Je te donne le pouvoir sur ce monde-là. J'ai beaucoup apprécié la remarque aussi de Willy tout à l'heure qui disait qu'effectivement, dans la prédication actuelle que l'on entend dans l'Église, c'est une prédication où on est censé, quand on est à Christ, on va avoir la fortune, la richesse, la santé, etc., etc., etc. Quel dévoiement de l'Évangile. Quel dévoiement. Christ est emmené par Satan sur les hauteurs du monde et dit, voilà, je te donne tout ce que le monde... Tout ça, je peux te le donner et c'est à toi. Une domination qui jouit de contempler sa propre puissance dans l'immédiateté d'un regard. En un instant, tout est... Maintenant, si tu t'inclines devant moi, dit Satan à Jésus. Ah, tous les royaumes de la terre, ce que le diable fait miroiter aux yeux de Jésus correspond bien à ce qu'on on a qualifié ça de libido mundi, c'est-à-dire l'amour du monde. Hein, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà ce que Satan propose, c'est la convoitise du monde. Ah, et maintenant et tout de suite. J'ai travaillé pendant 28 ans dans les addictions. Le propre des addictions, c'est ça. Je veux une réponse à mon mal-être tout de suite, maintenant, totalement. Prendre ma dose d'héroïne, prendre mon verre d'alcool, etc., c'est avoir la réponse tout de suite. Et ce monde propose cela. Or, ce qui nous est proposé par Dieu, c'est de cheminer avec lui. C'est de ne pas entrer dans la tentation de pouvoir coupler avec la gloire qui l'accompagne, c'est-à-dire la gloire, c'est le poids de Dieu, vous savez. Et donc, et Satan dit, bah, si tu t'inclines devant moi, je te donnerai et le pouvoir et la gloire. Et même dans l'Église, même dans nos vies, individuellement, grande est la tentation de vouloir... être dans une position, une attitude de pouvoir. Qu'est-ce que c'est bon de dominer sur les autres ? Non ? Croyez pas ? Même l'Église est tentée par cela. Après, c'est... Je faisais un peu de rangement et il y a un petit classeur sur lequel j'ai travaillé et que je lis encore, c'est le classeur de Jean-Louis Jabin. C'est un pasteur qui soutient bien le travail et l'équipe pastorale de Istres. Et sur le classeur, il y a marqué « devenir le berger des bergers ». C'est-à-dire être dans une position de berger. Ouais, mais aujourd'hui, je trouve que Jean-Louis, il est un peu dépassé. Hein, mais bon, vous ne lui répéterez pas, hein, mais il est un peu dépassé. Aujourd'hui, il faut être leader. Tu ne deviens pas un berger. Un berger, ce n'est pas un leader. Enfin, quoi, comment ? Non, il faut aspirer à diriger, à être à la tête, à être dans une position de pouvoir, et puis avoir des idées qu'on partage avec les autres pour qu'ils puissent vous aider à les mettre en place. J'aime beaucoup cette pensée d'être le berger de berger, parce que ça veut dire que c'est aussi un abandon d'une volonté de pouvoir et d'une mise en place et en position de service pour l'autre. Amen. J'aimerais qu'il y ait plus d'hommes qui proclament cela, devenir le berger des bergers. On est allé voir un film avec Francine au cinéma. Ça s'appelle Une vie. C'est un film, moi je vous conseille d'aller le voir. J'avais vu sur YouTube, il y a quelques années en arrière, une petite scène où on voit dans un théâtre un homme qui vient parce qu'on a dit qu'on allait lui faire un petit peu plaisir et puis l'honorer parce que pendant la guerre, il avait eu des attitudes pour aider des enfants juifs à Prague. Et en fait, ça se trouve toujours, cet homme s'appelait Winton, et Nicolas Winton, et il rentre dans ce théâtre, il y a plusieurs centaines de personnes, et puis à un moment donné, ça passe sur une chaîne de télévision, c'est filmé et tout, et donc la présentatrice lui dit « Monsieur Winton, est-ce que vous reconnaissez avoir aidé des enfants, etc. ?» Il dit « Oui, bien sûr, pendant la guerre, j'ai fait ce que je devais faire, très modeste et tout. » Et il dit « Mais est-ce que vous avez déjà rencontré un enfant que vous avez pu sauver pendant la guerre, enfin, en 38, au moment où Hitler commençait la déportation, ou agissait pour déporter les enfants juifs vers les camps de concentration ?» Il me dit « Non. » Et puis il dit « Regardez la femme qui est à côté de vous. » Et là, la femme se lève, il la regarde, il dit « Bah non, je ne sais pas. Cette femme, c'est une des femmes que vous avez sauvées quand elle était enfant. » Oh, Ah, voilà, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et puis, il va il expliquer, en fait, la présentatrice va expliquer qu'il a fait 9 convois uniquement remplis d'enfants juifs pour les sortir de Prague et les sauver. Et le dernier, ça s'est mal passé, il a été arrêté, les enfants déportés en camp de concentration, on ne les a jamais retrouvés. Il dit, mais est-ce que vous savez combien d'enfants vous avez sauvés ? Il dit, oh non. Et la présentatrice dit, on les a comptés, vous avez sauvé 669 enfants. Elle dit, est-ce que vous pensez que dans cette salle, il pourrait y avoir un enfant où... Il dit, je ne sais pas. Il s'est retourné, regarder. Et elle dit, et là, la présentatrice dit, eh bien, on va demander aux personnes qui ont été sauvées ou qui sont les enfants de personnes sauvées de se lever à leur place. La salle comportait environ 500 sièges, tous occupés. Et là, il s'est retourné pour regarder si quelqu'un se levait. Et toute la salle s'est levée. Ils étaient tous les descendants ou des personnes qui avaient été sauvées par Nicolas Winton. Ah, est-ce que nous pouvons aussi, dans la tentation qui nous est faite, j'entendais la question de l'œuvre sociale, mais être porteur d'un service et d'un appel pour un Dieu qui sauve et porter cela au monde et agir en fonction des valeurs de Dieu. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 6000 personnes qui vivent du fait de cet homme qui a fait des trains pour aller. Allez voir ce film, c'est un beau témoignage aussi de ce que c'est que de vivre. Là où on est appelé à vivre et à profiter tout de suite et maintenant de ce qui nous intéresse, est-ce que cette tentation-là, nous pouvons la laisser de côté en un instant? Le mot qui est utilisé, stigmécronous, en un instant je peux répondre à tes besoins, dit le diable, en un instant, stigmécronous, ça veut dire comme une piqûre d'épingle, comme cela, un stigmate, voilà, je peux te donner, non, je préfère vivre, non pas pour tout posséder, y compris le temps, rapidement, mais je veux véritablement me donner à mon Dieu. Lui offrir un culte raisonnable. Tout. Je te donne tout. La troisième tentation, et je terminerai là-dessus, c'est la tentation jusqu'au bout de la route du verset 9 à 13. Il dit, voilà, le Seigneur conduisit à le place en haut du temple. C'est-à-dire que tout avant, c'était la tentation dominée sur le monde. Et puis là, c'est dominé dans l'Église. J'aimerais bien que parfois dans l'Église, on soit aussi attentif à cela. Est-ce que nous sommes là pour dominer dans l'Église? Je relisais un ouvrage catholique qui parlait de l'évolution du ministère d'anciens dans l'Église. À partir du 2e au 3e siècle, le presbytéroi, ou les presbytéros, les anciens qui aidaient à faire grandir l'Église, il y en a un qui a été choisi et qui est devenu un épiscopoi. C'est-à-dire que, quelque part, il est devenu évêque. Et à partir du 3e siècle, plus rien ne se faisait sans que l'évêque ne décide et ne valide, à partir du 2e et 3e siècle. Est-ce que c'est ça? Non. Je ne veux pas me lever là et puis vouloir dominer dans l'Église. Comme dans la deuxième tentation, nous sommes sur des hauteurs, il y a même la mention des anges, une citation du diable qui dit, en reprenant le psaume 91, voilà, il te porte, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur les mains. Je trouve qu'il est futé, le diable. Il sait même utiliser la parole de Dieu. Ouais. Et c'est Origène qui disait, il est futé, mais assez manipulateur quand même. Parce que quand il cite le psaume 91, il oublie de citer le psaume, le verset qui suit. Hein, les anges te porteront sur les mains, etc., afin qu'ils te gardent et de peur que ton pied... Sauf que le verset suivant, c'est « Tu marcheras sur le lion et sur la pique, tu fouleras le lion et le dragon. » Et en fait, c'est un verset qui parle comment le Messie va écraser le diable. Et ça, il oublie de le dire. C'est bête, hein ? Il dit « Bon, on va peut-être pas lui donner des idées. » Et puis, il est dit qu'ensuite, le diable s'éloigna après l'avoir tenté dans tous les domaines. Il n'y a que trois domaines, mais quand on les travaille, on s'aperçoit que finalement, c'est tout, tout a été fait. Et il est dit, il s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Et en fait, le moment favorable, c'est quel moment ? Eh bien, le moment favorable, c'est le moment où Christ acceptera de monter à Golgotha, d'être suspendu à la croix. Et là, le moment favorable pour l'adversaire, à son sens, voilà, là, je vais lui régler son compte. Ouais. Sauf qu'il n'a pas réalisé qu'en agissant ainsi, il accomplissait le plan de salut de Dieu. Et nous pouvons, nous aussi, dans les tentations, en résistant, être confrontés à ces moments-là, à des moments de résistance qui nous coûtent. Mais sachons là que c'est aussi dans ces moments de résistance, et c'est un peu le témoignage qu'on a eu ce matin, sont aussi des moments où le plan de salut de Dieu s'accomplit aussi dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que te dire oui, accepter de marcher avec toi jusqu'au bout, c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacune de nos vies. Ça peut nous coûter, et ça peut être aussi significatif de souffrance, de douleur. Mais rien n'est meilleur que toi. Alors même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donne-nous, Seigneur, dans ces temps où l'adversaire peut vouloir nous écarter de notre appel, de notre vie, de demeurer ferme en toi. Et que ton Esprit Saint nous conduise dans tout ce qui est bon et juste et dans toute la vérité. Maintenant, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Donne-nous de la vie également. Amen. Amen. Nous voulons terminer.